Bonjour, et nous voilà retournés dans les studios de Radio Galère en compagnie de Sidi, que je remercie.
Bonjour.
Pour une nouvelle émission des carnets hebdomadaires sur la situation politique internationale. Alors j'ai commencé, mais je pense que vous êtes abreuvé de nouvelles de ce type, par quelques nouvelles quand même du Covid, parce que ce n'est pas fini. Alors ce n'est pas fini, puis il y a des variations internationales, par continent et tout. Les dernières nouvelles, c'est que l'Europe de l'Est, y compris jusqu'à la Russie, sont touchés par une nouvelle vague très très importante. Alors c'est pas encore arrivé à l'Europe de l'Ouest, ça va peut-être venir, mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de rémission réelle et que des pays qui ont eu très très peu de cas avec au prix de mesures extrêmement sévères, je pense à la Chine populaire et à quelques autres, ne sont pas à l'hybride du retour d'un virus sous une forme ou sous une autre. Donc on a affaire à une épidémie qui dure. On nous fait croire, on nous abreuve de l'idée que, oui, ça y est, on est presque passé, la période la plus dure est passée, et puis ça va s'arranger, et puis on va tout reprendre comme avant. Ben, c'est pas si sûr que ça, puisqu'au fond, il suffit de quelques semaines qui passent, puis tiens, ah, le virus est revenu à tel endroit, puis il est revenu à tel autre, etc. Et donc, on a une espèce d'actualité permanente qui fait de plus en plus ressembler le Covid à la grippe. C'est-à-dire que c'est saisonnier, ça revient, ça va, ça vient, mais on n'en est pas vraiment débarrassé. Bon. Alors je ne vais pas vous inquiéter plus que ça, parce que je pense que les grands médias s'en chargent, ou font l'inverse à certains moments, disant « Ah, chez nous, ça va beaucoup mieux », quitte à dire le contraire si les faits le démontrent 15 jours plus tard. Bon. Mais ce n'était pas le centre de mes préoccupations. Je vais aller à d'autres questions beaucoup plus directement politiques. Alors avec des petits faits, je commence par les tensions au sujet de l'Iran. On est toujours, vous savez, dans cette période bizarre de négociations qui n'avancent pas, qui haltent, qui arrêtent, qui reprennent, etc. entre l'Iran et le groupe des cinq, donc le groupe des cinq qui ont signé l'accord sur le nucléaire iranien, je le rappelle, donc les États-Unis, la Russie, l'Allemagne et la France. Plus, oui, là. Et donc, on en est là, ça ne bouge pas, mais. Et les Iraniens disent ben nous, on était prêts à respecter l'accord tout autant que les États-Unis le respectaient aussi et arrêtaient de nous sanctionner pour non-respect de l'accord. Nous le respecterons et nous le respectons. Nous confirmons ce qu'ils ont fait une nouvelle fois. Ça paraît une ancienne, même un peu désagréable. Enfin, nous ne voulons pas d'armes nucléaires. Nous avons signé des accords pour qu'il n'y ait pas d'armes nucléaires en Iran, pour ne pas en rechercher. Nous tenons à cette position-là, mais nous ne nous interdisons pas d'avoir une science et une industrie nucléaire en dehors de la fabrication des armes. Et vous savez qu'il y a tout un domaine civil de l'énergie nucléaire, serait-ce que la production d'électricité, mais il y en a des tas d'autres dans la recherche scientifique, qui fait qu'on peut effectivement avoir une actualité et une activité industrielle nucléaire sans avoir besoin et sans avoir l'idée de faire des armes atomiques. Qui, par ailleurs, vous savez, sont critiqués, puisqu'il y a même aujourd'hui en vigueur, vous le savez, je l'ai assez redit, un traité international pour l'interdiction de l'arme atomique, qui a du succès, puisque dans beaucoup de continents, on a décidé de ne pas l'avoir et de ne pas se servir de ce jouet extrêmement dangereux. Voilà pour l'Iran. Alors, pour montrer que les négociations n'avancent pas, les États-Unis se sont fendus d'une opération militaire, alors un grand spectacle, puisqu'ils ont envoyé donc au-dessus du golfe Persique un bombardier, leur plus gros bombardier dit furtif, celui qui est difficile à détecter par les radars, le bombardier B1, qui a probablement décollé de la base états-unienne de l'archipel Diego Garcia, qui est assez loin dans l'océan Indien. Donc je rappelle que c'est un territoire qui appartenait à la Grande-Bretagne, qui a été vidé de ses habitants, donc on les a mis à la porte. Ils se sont exilés, la plupart vivent en Grande-Bretagne aujourd'hui, et à la place, la Grande-Bretagne a fait un cadeau très très royal, j'allais dire, aux États-Unis en leur disant « là, vous pouvez faire ce que vous voulez ». Et les États-Unis ont fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire qu'on leur laisse un endroit, ils font une base militaire. Il manque beaucoup d'imagination. Alors, c'est soit Disneyland, soit une base militaire, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Bon, mais c'est ça l'imagination des États-Unis. Et donc, depuis cette base, il est probablement parti un bombardier B1 survoler les eaux du golfe Persique, c'est-à-dire passer le plus près possible de la frontière de l'Iran qui en est riverain. Et ils étaient, alors le bombardier, c'était assez amusant puisqu'ils ont diffusé des images, étaient encadrés de chasseurs-bombardiers, donc de plus petits avions, qui étaient envoyés là. Alors, je vous donne les noms des pays qui accompagnaient ce bombardier des États-Unis : Israël, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et l'Égypte. Donc on avait là tous les pays de la région qui soutiennent les pressions, puisque c'est une pression sur les négociations des États-Unis sur l'Iran. Parce que ce qu'on a compris, c'est que les États-Unis ne veulent pas reproduire à l'égalité l'accord signé par Obama et les Iraniens avant la fin du mandat d'Obama, mais ils voudraient durcir encore cet accord. Ce que les Iraniens ne veulent pas. Vous aviez signé ça, votre pays a signé ça. Nous demandons simplement à ce que la signature des États-Unis d'Amérique soit respectée. Les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas un monsieur qui dit oui un jour et un monsieur qui dit blanc le lendemain. C'est un grand pays qui doit avoir de la suite dans ses signatures, dans ses engagements, qui doit respecter sa signature. Et ce n'est pas parce qu'il y a un Trump qui remplace un Obama qu'on jette tout à la corbeille. Alors c'est effectivement plutôt ce qui se passe, mais les Iraniens disent « nous, on ne peut pas accepter ça ». Et ils ne sont pas les seuls à le dire, puisque les relations internationales sont quasiment impossibles, puisqu'il s'il suffit de l'activité d'un seul chef d'État ou d'un seul Premier ministre qui, du coup, est élu un peu par hasard ou à la limite avec 50,1% des voix et qui ne respecte aucun des accords signés par des prédécesseurs, les relations internationales deviennent impossible. C'est impossible puisqu'on peut croire en personne, puisqu'on est à la merci du moindre événement de politique intérieure pour que les relations avec le reste de la planète deviennent caduques et qu'il faille tout reconstruire à partir de zéro. Donc c'est une volonté de destruction, mais c'est beaucoup plus grave parce que j'y ai pensé en réfléchissant à cette phrase qui, à propos donc, de ces manœuvres de pression, ben, c'est une manœuvre de pression parce qu'ils n'ont pas bombardé, ils ont simplement survolé de plus près l'Iran sur le golfe Persique. C'est une façon de dire il faut accepter de négocier sur nos bases. Ben, c'est une façon de faire pression dans la négociation. Mais ça a été accompagné d'un commentaire de M. le secrétaire d'État, Blinken, qui a dit, alors je vous le dis en anglais, mais on le retrouve dans la version française, « toutes les options sont sur la table ». Alors je me suis arrêté à cette phrase qui paraît bien coutumière. Elle a été utilisée beaucoup par George Bush, ensuite par Obama, par Trump certainement, etc. C'est un classique. Toutes les options sont sur la table. Mais ça veut dire quoi ? Réfléchissez à des rapports entre vous et quelqu'un d'autre de la société avec laquelle vous avez des rapports. Toutes les options sont sur la table. Ça veut dire, sachant ce que les États-Unis mettent derrière ça, que ou tu es d'accord avec moi, ou je te casse la gueule. C'est ça que ça veut dire. C'est rien d'autre que ça. Alors c'est dit poliment, toutes les options sont sur la table. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un droit, il y a des relations, il y a des contrats, il y a des accords qu'on a signés. Et puis si ce n'est pas comme on veut, eh bien on dit ça se termine autrement. Alors quand on dit « je te casse la gueule », c'est comme ça qu'il faut le comprendre dans les relations qu'il y aurait entre deux bandes de voyous, entre deux jeunes gens qui s'affrontent dans la cour d'un collège. Mais ça veut dire que quoi ? Ben, le droit, ça ne vaut pas grand-chose. Et finalement, ce qui compte, c'est la force. Les options qui sont là, c'est on peut effectivement vous tirer dessus, vous bombarder. Ça veut dire que les États-Unis, en employant ce genre de langage, utilisent un langage de gangster. C'est où tu es d'accord. Alors, vous savez, les accords entre bandes pour le contrôle d'un trafic de cocaïne ou de faux billets, etc. C'est ça. Où on se partage le territoire. Toi, tu es là, moi, je suis là, chacun a son marché. Ou bien je tire. Hein. Ben, on en est là. Dans les relations internationales telles que les conçoivent les États-Unis, c'est ou bien tu acceptes mes mesures, ce que je t'impose, tu acceptes ma volonté, ou bien je bombarde. C'est ça. Toutes les options sont sur la table. C'est une expression qui viole de fait tout droit international et qui fait de la force l'unique règle des rapports entre les nations. C'est tout à fait grave. C'est tout à fait grave. Et en fait, ce qui est grave aussi, c'est que, à force de l'entendre dire, ça remonte à Bush et à ses guerres, donc Afghanistan, Irak, vous savez tout ça, je reviens pas là-dessus, on s'est habitué à cette phrase, mais ça veut dire qu'effectivement, la mentalité de gangster habite la totalité des couches dirigeantes des États-Unis, et c'est ça qui leur vient en dernier ressort, c'est-à-dire, on veut telle et telle chose, l'autre ne veut pas, et il a peut-être de bonnes raisons pour ne pas vouloir. Et de toute façon, lui dit, mais si tu ne veux pas, eh ben c'est la guerre, c'est tout. Mets-toi bien ça dans la tête. Ce qui veut dire que ça veut dire que l'ONU n'existe pas, les traités internationaux n'existent pas ou sont secondaires. C'est des arrangements temporaires sur lesquels on peut revenir en permanence. C'est une situation extrêmement dangereuse, d'une instabilité profonde et qui met en cause, d'une certaine façon, si on arrivait à l'extrémité de ces menaces de gangsters, c'est-à-dire je tire, quand on tire avec des bombes atomiques qui font 100 ou 500 fois la puissance d'Hiroshima, on met en danger l'espèce humaine. C'est ça qui se dit. Alors vous voyez cette phrase de rien, hein, c'est cinq mots. « Every option is on the table ». Toutes les options sont sur la table. Ça veut dire, ben, je peux vous tuer quand je veux. Alors, c'est pas si évident d'ailleurs, parce qu'ils le disent et ils essayent de s'en persuader. Mais je vais revenir sur un événement qui a beaucoup agité les médias états-uniens en particulier ces derniers jours. L'événement remonte, alors il n'y a pas eu d'événement en tant que tel, on n'en a rien dit quand ça s'est passé cet été, mais tout d'un coup, c'était au mois d'octobre, le Financial Times, donc ce quotidien britannique qui est un peu le quotidien du monde capitaliste, au moins anglo-saxon, fait état d'un tir de missile hypersonique par la Chine à destination du territoire des États-Unis. Alors je m'arrête un peu là-dessus. Un missile hypersonique. Alors il en existe, on sait que la Russie en a, la Chine commence à les développer, on le sait. On sait, et j'y reviendrai, que les États-Unis voudraient bien en avoir aussi. Enfin, c'était une technique possible aujourd'hui dans l'état actuel du développement industriel et technologique de différents grands pays. Donc un missile hypersonique, c'est un missile qui se propage dans le ciel ou dans la stratosphère, je vais y revenir dans les détails d'exécution, à une vitesse supérieure à 5 fois la vitesse du son. 5 fois la vitesse du son, donc c'est 6000 km à l'heure à peu près. Et pour donner un ordre de grandeur, puisque je vais parler des relations entre les États-Unis et la Chine, un missile hypersonique mettrait 1 minute 30 secondes pour aller de Pékin à Washington. Donc ça c'est un tir ultra rapide et ça pose toute une série de questions que je vais aborder. Et donc les Chinois n'avaient rien dit et donc nous voici au mois d'octobre et ce quotidien britannique dit les Chinois ont lancé un missile hypersonique sur les États-Unis mais qui a raté sa cible. Alors, je veux bien qu'ils disent ça, mais comme les Chinois n'ont pas confirmé, est-ce qu'ils ont raté la cible ou est-ce qu'ils n'ont pas voulu ou est-ce qu'ils n'avaient pas de cible ? Je vais revenir sur cette question-là. Ils affirment ça et ils ont raté largement la cible puisqu'ils parlent de 30 km d'écart entre ce qui était visé et ce qui a été atteint. Bon. Alors je me dis, effectivement, s'ils ont raté la cible, et leur missile hypersonique, si missile hypersonique il y a eu, il est allé se perdre dans les montagnes ou dans un lac, on ne sait pas, on ne l'a même pas vu passer. Mais à cette vitesse-là, on ne va pas passer grand-chose. Si en plus c'est la nuit, vous imaginez. Bon. Le doute reste permis, c'est-à-dire que depuis cette annonce par la presse britannique, par le grand quotidien du grand capital international britannique, la Chine n'a pas confirmé. On a simplement entendu dire, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois dit « la Chine doit pouvoir se défendre si elle est agressée ». Et donc la Chine a une politique de défense qui fait qu'elle utilise tous les moyens à sa disposition en fonction des objectifs qu'elle s'assigne et en fonction des dangers qu'elle perçoit. Rien qui puisse dire « est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ?» Chacun peut continuer à faire ses hypothèses. On en était là de cette espèce d'échange bizarre, pas vraiment fondé sur un fait. Il a été publié aucune photo. Alors c'est difficile de photographier un missile qui arrive à 6000 km à l'heure. Et on n'en aurait peut-être plus parlé. Sauf que ces derniers jours, donc cette dernière semaine, le chef d'état-major des armées, le chef de toutes les armées, donc il y a 3 armes aux États-Unis, donc une arme aérienne, une arme navale et une arme terrestre, M. Mark Riley, a, dans une interview à l'agence de presse Bloomberg, a confirmé ce tir de missile hypersonique chinois, sans dire précisément où il était arrivé, s'il avait fait des dégâts. Donc a simplement dit « oui, il a eu lieu », ce qui reste encore assez vague. Et il a dit, et là c'est plus du tout vague, on est dans le domaine de la grande politique, il a dit « c'est un moment Spoutnik ou presque un moment Spoutnik ». Alors je reviens en arrière parce que le mouvement Spoutnik, ça remonte à il y a très longtemps et peut-être un certain nombre d'auditeurs n'ont pas en mémoire l'événement Spoutnik en tant que tel qui se passe au mois d'octobre 1957. Alors on sait que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une espèce de course-poursuite en matière d'astronautique, donc de missiles et de fusées, entre l'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre. Et que chacun essaye de progresser dans la taille des fusées, dans la qualité des carburants, la portée de chacune de ces fusées. L'avènement du Spoutnik, alors le Spoutnik, je le rappelle donc pour les jeunes auditeurs, est le premier satellite artificiel mis en orbite par l'URSS, donc on est en octobre 57, qui va tourner quelques jours autour de la Terre en émettant un petit signal très très gentil, puisqu'on disait bip, 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 c'était le langage du Spoutnik à cette époque-là. Ce que ça produit dans la tête des élites et des dirigeants des États-Unis, c'est un véritable choc. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien, et l'URSS savait aussi ce qui se passait de leur côté, que la question de pouvoir mettre en orbite des satellites avec les fusées dont l'un et l'autre disposaient était donner une capacité d'observer. Alors, on pouvait éventuellement de bombarder. Mais effectivement, d'avoir déjà un satellite qui tournait en orbite autour de la Terre, vous savez qu'aujourd'hui, il y en a des centaines et on ne se pose même plus la question. Mais à l'époque, le premier satellite qui tourne, lancé par des hommes qui tournent autour de la tête, a la possibilité, dans sa révolution, dans son tour de Terre qu'il fait, de photographier tout ce qu'il y a en dessous. Et donc, c'est un instrument d'observation, et vous avez imaginé dans le langage des militaires, un instrument d'espionnage hors du commun, et donc d'une puissance potentielle considérable. Et donc ça crée dans la couche dirigeante des États-Unis, civile et militaire confondus, une espèce de panique. Et quand le général Milley parle de syndrome, enfin de moment Spoutnik, il fait référence très clairement, il l'a peut-être vécu parce qu'il est peut-être jeune, mais il l'a vécu à ce moment-là, ça fait référence à cette espèce de panique des États-Unis en disant « nous sommes en retard sur l'URSS ». Jusqu'à présent, ils étaient restés dans cette idée confortable que l'URSS essayait bien d'être dans la course, mais qu'au fond, les États-Unis avaient toujours un tour d'avance, ou une technique d'avance, ou un procédé d'avance, ou une arme d'avance. Là, ils se disent « on a une arme de retard ». C'est-à-dire que nous n'avons pas de satellite, nous n'en avons pas lancé, et donc l'URSS peut, à partir d'aujourd'hui, photographier toutes nos installations militaires, et nous ne pouvons pas faire pareil. Il faut rappeler qu'à l'époque, l'URSS a dit « mais c'est simplement une avancée dans les connaissances et dans les capacités de l'espèce humaine. On ne cherche rien à faire de particulier. On ne cherche pas à attaquer les États-Unis. » Mais enfin, les États-Unis l'ont pris comme un danger militaire. Et donc, quand le chef d'état-major des États-Unis, M. Riley, dit « nous revivons quelque chose qui ressemble à un moment Spoutnik », il traduit une inquiétude, plus que ça, peut-être même une panique à l'intérieur des cercles militaires dirigeants aux États-Unis. Que le chef d'état-major des armées s'exprime dans une agence de presse dans ces termes-là, ça veut dire qu'il ne pense pas qu'il va être désavoué par la Maison-Blanche. Il faut plutôt penser qu'il y a eu une espèce de partage du travail, c'est-à-dire que lui exprime l'inquiétude des militaires, puisque c'est eux qui devraient trouver un moyen d'avoir des capacités militaires égales à celles de l'adversaire, mais qu'au fond, le pouvoir politique est assez content de le laisser commencer à annoncer l'inquiétude plutôt que d'endosser lui-même cette inquiétude. Ça aurait été plus délicat que M. Biden, qui d'ailleurs, après l'annonce du Financial Times, a pris note de l'incident ou de l'événement qui n'a peut-être pas eu lieu d'ailleurs, sans plus, sans s'étendre, parce qu'il ne voulait pas, lui, dramatiser, et il ne voulait surtout pas reconnaître ce que fait le chef d'état-major, que les États-Unis avaient du retard technologique. Alors cette fois, ce n'est plus le moment Spoutnik par rapport à l'URSS, c'est le moment Spoutnik par rapport à la Chine populaire. La Chine populaire aurait des missiles hypersoniques. Alors revenons à ces missiles hypersoniques. Ce missile hypersonique, donc qui va à plus de 5 fois la vitesse du son, pose des problèmes. Il pose des problèmes parce qu'il est difficile à détecter, tellement il va vite. Je vous ai dit 1 minute 30 pour aller de Pékin à Washington. Donc il faut avoir l'œil très très aguerri et très exercé pour arriver à le voir venir. Alors ça, on s'y est à peu près employé aux États-Unis. On a mis au point des systèmes de détection qui permettent effectivement de voir venir un missile. Alors il y a différentes façons de le voir venir. Alors soit on le voit venir avec des radars. Mais le radar classique, qui est une onde qu'on émet pour voir s'il y a un obstacle en face et qui revient, le radar classique, il ne va pas au-delà d'une cinquantaine de kilomètres à cause de la courbure de la Terre. Donc si vous voulez voir depuis les États-Unis un missile qui a été tiré depuis la Chine, vous le verrez arriver 5 secondes avant qu'il arrive. Ce n'est pas la bonne technique. Alors il y a des radars de très haute altitude. C'est-à-dire, c'est des radars qui émettent des sons vers l'ionosphère. Vous savez qu'autour de l'atmosphère, il y a une couche électrisée qu'on appelle l'ionosphère. Et donc, pour faire un radar qui voit loin, il faut aller envoyer un rayon sur l'ionosphère qui va redescendre en dessous. Et là, on voit beaucoup plus loin, on voit des milliers de kilomètres. Bon. Ça, c'est la technique que les États-Unis maîtrisent. Et donc, ils sont capables de voir effectivement une fusée qui décolle de Russie ou de Chine. Et puis il y a une autre technique qui elle, est tout à fait au point, au moins du côté des États-Unis, c'est une technique de détection infrarouge. C'est-à-dire qu'un missile balistique qui circule donc à plus de 5 fois la vitesse du son, vous imaginez que ça chauffe. hein, quand ça rentre dans l'atmosphère. Et donc, le rayonnement calorique de ce missile, quand il va rentrer dans l'atmosphère, effectivement, est détectable. Ça, les États-Unis savent faire. Là où ça devient assez cocasse, j'allais dire, prenons ça comme il faut et avec le sourire, c'est que cette inquiétude des États-Unis, elle démontre ce qui a été écrit, je vais y revenir, par un certain nombre de commentateurs aux États-Unis, ça démontre que, en fait, les États-Unis ont aujourd'hui la capacité de voir partir un missile hypersonique, chinois par exemple, ou russe dans l'autre cas, mais ils n'ont pas le temps d'intervenir. Ils n'ont pas le temps d'intervenir, c'est-à-dire ils pourront dire, ben voilà, il est parti, mais on n'a pas le temps d'intervenir parce qu'il faut aller tellement vite. Est-ce qu'il faut le tirer lui ou est-ce qu'il faut faire autre chose? C'est là que je reviens à un autre aspect de ce problème qui est le suivant. Il existe aujourd'hui, c'est plus que sur le papier, mais un certain nombre d'installations et de systèmes de missiles, antimissiles mis au point par les États-Unis. C'est-à-dire que, à partir du moment où un missile ennemi, je vais être simple, est détecté au moment où il s'en va, il décolle, on va envoyer d'autres missiles au terme de sa course pour le tirer, pour l'abattre. Bon. Il se trouve que ces systèmes, alors c'est là que ça devient intéressant, ces systèmes de détection et surtout de destruction, ce qu'on appelle les systèmes antimissiles, ne fonctionnent pas ou très très mal. Et il est connu aujourd'hui, et ça fait partie de l'inquiétude des États-Unis, que ces systèmes antimissiles, en fait, ne servent pratiquement à rien. Alors ça a été confirmé par un expert dans ces questions-là, qui est un professeur très émérite et très couronné de récompenses nationales et internationales du Massachusetts Institute of Technology, donc le MIT. Et ce monsieur-là, donc, qui s'appelle M. Postol, a dit qu'effectivement, l'expérience qui avait été faite... Alors, les États-Unis ont construit ces missiles antimissiles, dont on se rappelle le nom pour certains d'entre eux, les missiles Patriot, en fait, n'ont jamais détruit des missiles qui arrivaient sur le sol. Ce monsieur Postol, qui est un monsieur d'un certain âge maintenant, qui est un professeur émérite, donc qui est à la retraite et qui ne craint pas d'avoir une certaine liberté de propos, a fait une étude très poussée, non pas sur ce qui se passe aujourd'hui, mais une étude très poussée sur les fameux missiles antimissiles des États-Unis Patriot pendant la guerre d'Irak. Alors, je ne sais pas si vous remettez en mémoire la guerre d'Irak, mais on parlait donc des missiles que tirait l'Irak, qui étaient les missiles Scud. Et on parlait des missiles Patriot, donc tirés par les troupes des États-Unis, qui abattaient les missiles Scud. Bon. Et bien en fait, ce que dit ce monsieur, dans une étude qu'il a rendue publique, et on ne l'a pas enfermé comme étant un fou furieux, c'est que la plupart des missiles Patriot ont raté leur cible chaque fois. Bon. Et en fait, ce propos, il n'est pas le seul à le tenir, puisqu'aux États-Unis même, à la suite de l'annonce et de la prise de position du chef d'état-major des armées, plusieurs experts ont dit, de toute façon, notre système antimissile, il y en a même qui l'ont qualifié d'éléphant blanc, est un système qui a coûté très très cher, qui a beaucoup rapporté aux compagnies qui l'ont mis en place, aux membres industriels du complexe militaro-industriel, mais qui en fait ne sont pas efficaces. C'est-à-dire qu'en fait, on en arrive à la situation, et pour ça, c'est pour ça que l'inquiétude des États-Unis est forte, puisqu'au fond, ils seraient tout à fait capables de détecter le départ, disons depuis la Chine ou depuis la Russie, au choix, ça n'a pas d'importance, d'un missile hypersonique, avec un délai très très court avant qu'il arrive sur le sol des États-Unis, mais ils seraient en fait quasiment incapables de l'arrêter. Et donc, d'où une situation de relative faiblesse, c'est-à-dire à partir du moment où un de leurs adversaires désignés utiliserait cette arme, eh bien cette arme aboutirait sur son objectif. Alors là, le missile, le peut-être missile, je garde toujours les guillemets initiaux, le peut-être missile du mois d'août, s'il est allé atterrir dans la campagne ou dans les montagnes rocheuses, on ne sait pas, ça n'a pas d'importance. Mais le jour où il serait tiré sur une cible réelle et importante, on imagine par exemple le Pentagone ou quelque chose comme ça, pourrait faire des dégâts dans des délais très très rapprochés et mettre quasiment, réduire à néant la capacité de riposte des États-Unis. Voilà où on en est de la question. Alors après, ça amène à une réflexion sur qu'a fait la Chine. Alors la Chine n'a rien dit, elle n'a pas reconnu qu'elle avait fait ce tir de missile hypersonique. Elle a simplement fait état de son droit de se défendre et d'utiliser les armements qu'elle considère comme adaptés à sa défense, mais pas plus. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, la Chine, les experts occidentaux et tous les espions en charge de ça le savaient, la Chine, effectivement, était en train de développer cette technique. Ils avaient d'ailleurs montré les premiers missiles hypersoniques défilant dans les grandes manifestations officielles sur la pièce Tiananmen, devant le palais d'été, devant le palais... La cité interdite. Et donc, pas de surprise en réalité, si ce n'est de savoir s'ils sont capables de s'en servir ou pas de s'en servir. Alors, cette Chine, donc, à quoi elle a joué ? À quoi elle a joué ? Alors, elle a joué, à mon avis, un jeu politique extrêmement intéressant. La Chine sait, puisque ça a été annoncé très clairement, que les États-Unis sont leur ennemi, puisque les États-Unis se sont déclarés comme les adversaires de la Chine, où on dit la Chine, c'est notre ennemi à partir de maintenant, et on s'organise avec l'alliance, avec l'Australie, la Grande-Bretagne, etc., etc., pour limiter cette menace. Et donc la Chine dit, ben, moi, effectivement, je veux voir effectivement quel est l'état du camp d'en face, l'état politico militaire. C'est pas, il y a une opinion, il y a des dirigeants politiques, il n'y a pas que le chef d'état-major des armées. Il y a aussi un président des États-Unis, il y a un Sénat, il y a des congressistes, il y a des ministres, etc. Bon. Ce que fait la Chine, elle dit, moi je laisse dire que j'ai tiré un missile hypersonique et puis j'observe la scène. Alors j'observe la scène, alors je vois effectivement que le président Biden est très prudent. Il dit oui, il paraît que, mais il n'en fait pas état. Ça veut dire qu'il s'interroge, mais il ne veut pas dramatiser la situation. Et s'il ne dramatise pas, peut-être c'est qu'il sait que par rapport à cette situation nouvelle, les États-Unis ne sont pas en position très très forte. Et puis le chef d'état-major des armées, lui, dit au niveau des militaires, on est paniqué. On est paniqué parce que les militaires, pour eux, ils sont là, et surtout les militaires des États-Unis, ils ne sont pas là pour défendre le pays, ils sont là pour gagner les guerres permanentes des États-Unis. Or là, si on leur met sous les yeux la preuve qu'ils ne sont pas capables de gagner la guerre des missiles hypersoniques, effectivement, leur univers mental s'écroule. Ils ne servent plus à rien puisqu'ils n'ont pas la réponse à « je détruis qui je veux quand je veux ». Et je reviens à « toutes les options sont sur la table », toujours cette phrase qui les hante. Donc les Chinois ont obtenu ce résultat remarquable. La politique, donc Biden est prudent et l'armée panique. L'armée panique et ça va déboucher sur quoi ? Quand l'armée panique, elle va dire il faut absolument qu'on rattrape notre retard. Et là, on en arrive sur les mécanismes classiques du complexe militaro-industriel. Pour rattraper le retard, il faut déverser des dizaines de milliards de dollars sur les gens qui sont capables de fabriquer des tueurs de missiles hypersoniques. C'est ce qui va se passer probablement. La Chine a beaucoup appris dans cette opération. Quel est ou non tiré ce missile hypersonique ? Elle a beaucoup vu les cartes s'abattre. Les cartes du politique prudent, parce que Biden sait, enfin, s'il a conscience du fait que les États-Unis sont en retard, bon, donc il n'a pas intérêt à jouer les cow-boys pour l'instant. Et les militaires qui disent, nous, en cas d'attaque, on ne sait pas se défendre, donc les militaires n'ont pas fait leur job, vous allez dire. Les militaires, eux, disent, il faut absolument qu'on rectifie le tir, et donc il faut absolument déverser, comme ils l'ont toujours fait faire, des milliards de dollars sur les industriels qui vont nous fabriquer des instruments de défense adéquats. Alors, j'ironise parce que c'est les mêmes industriels qui n'ont pas réussi à mettre au point le système Patriot, c'est-à-dire le système qui ne fonctionne pas bien ou pas du tout. Ils vont reproduire ça, peut-être à une échelle plus élevée, en dorant un peu la pilule, en disant qu'ils ont fait beaucoup de progrès depuis ces années-là, etc. Mais de fond, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les militaires des États-Unis, sans qu'ils n'ont pas la possibilité de voir un industriel du complexe militaro-industriel qui met des dizaines, à qui on met des dizaines de milliards sur la table pour dire « produisez-nous l'arme de défense absolue à n'importe quel prix et vite, et vite, et vite », ils ont fait leur travail. Et donc finalement, tout ça n'est peut-être qu'une affaire commerciale, c'est-à-dire qu'au fond, ce que les Chinois ont déclenché, c'est un investissement supplémentaire nouveau pour un certain nombre d'entreprises qu'on connaît, Lockheed, Raytheon, etc., ben, je ne fais pas le détail, qui vont continuer à engranger des milliards de dollars pour ne pas gagner des guerres, puisqu'ils n'ont pas réussi à gagner les guerres précédentes. Enfin, la guerre contre les missiles n'a pas marché. Heureusement, j'allais dire qu'aucun des pays qui disposent de l'arme hypersonique, la Russie en premier, qui l'a eu avant la Chine maintenant, aucun de ces deux pays n'a menacé d'utiliser une arme hypersonique contre les États-Unis. C'est ça qui est... Aucun de ces deux pays n'a dit « every option is on the table ». Ils n'ont jamais fait ça et ils ne le feront probablement jamais. La position de la Russie est particulièrement claire en disant « si vous nous attaquez, Nous défendrons, nous serons morts parce que vous nous attaquerez avec des moyens, je parle de guerre nucléaire, avec des moyens monstrueux, on sera tous morts, ou quasiment tous, mais vous serez morts aussi. C'est ce qui vous incite à réfléchir. Les Chinois ne le disent pas aussi crûment que ça, c'est le vocabulaire et la façon de parler de Poutine, mais ils disent, c'est ce qu'a dit le ministère des Affaires étrangères après l'article du Financial Times, il a dit, nous, on met au point nos capacités de défense, puisqu'au fond, on a été déclarés comme étant les ennemis des États-Unis, ce qui n'est pas du tout notre politique. Nous, on a une politique d'ouverture, de respect de tout le monde, de chacun doit pouvoir vivre sa vie, mais si on est attaqué, on se défendra. Et on se défendra avec toutes les techniques possibles à notre disposition aujourd'hui. Voilà ce qui méritait d'être dit là-dessus. Alors il y aura peut-être des développements, mais c'est intéressant parce que ce comportement de la Chine est un comportement très ancien et très classique, c'est-à-dire c'est un comportement qui consiste à tester l'adversaire qui est belliqueux. C'est manifeste, hein, qui veut du mal, qui a beaucoup d'armes, qui a beaucoup de moyens financiers au service de son armée, à le tester pour un coût quasiment nul. C'est-à-dire que ça n'a rien coûté à la Chine de dire ou de laisser dire par un journal anglais qu'elle avait tiré un missile hypersonique. Ça ne lui a rien coûté, hein, juste le prix de ce missile-là. Mais par contre, les enseignements politiques qu'elle en tire, et puis l'espèce de crise qu'elle a engendrée dans le pouvoir militaire des États-Unis, c'est un instrument très très intéressant. Ben, ça lui permet de voir qui sont les acharnés, qui sont les raisonnables, quel camp va l'emporter sur un autre. Donc elle s'est fait faire presque gratuitement un portrait de l'état des forces politiques et militaires au sein des États-Unis aujourd'hui. Et l'enseignement qu'elle peut en tirer, c'est que les États-Unis, en fait, c'est la panique du général Milley, sont dans un tel état de retard sur la question des missiles hypersoniques, que ce soit pour les tirer eux-mêmes ou que ce soit pour empêcher que d'autres missiles hypersoniques arrivent sur leur territoire, ils sont très très en retard et ce retard les met dans un malaise très très profond auquel ils ne sont pas du tout habitués. Et ça, pour la Chine, c'est un enseignement majeur. C'est-à-dire que les États-Unis sont désemparés, désarçonnés, parce qu'ils ne savent pas comment ils vont tuer l'adversaire. Puisque c'est la seule, je reviens toujours à mon point de départ, la seule logique, c'est l'adversaire dangereux, je le tue. À partir du moment où je me rends compte que je ne peux pas le tuer, je ne suis plus en position de dire « je suis le maître du monde ». Et là, on a affaire à une véritable commotion cérébrale, c'est-à-dire « je ne suis plus le maître du monde », il faut que ça rentre dans la tête de tous les généraux, de tous les amiraux des États-Unis et dans la tête des entourages des présidents. C'est pas évident, c'est pas gagné. Mais c'est ça qui se joue en ce moment, depuis une vingtaine d'années maintenant. Et donc c'est ça qu'il faut que nous suivions, car le fait que ce jeu aujourd'hui, donc de la menace des États-Unis de faire la loi par la force et par la force du nucléaire, qui est une menace concernant la totalité de l'humanité, cette menace-là doit être effectivement déjouée et il faut l'écarter le plus possible de la scène des relations et de l'avenir de l'humanité. C'est ça que je voulais dire, mais c'est pour ça que je voulais dire, les Chinois ont presque rien fait, mais ils ont fait découvrir la scène intellectuelle, stratégique des États-Unis dans l'état de dénuement où elle est, c'est-à-dire que ou bien je gagne et je détruis l'adversaire et il ne reste rien de l'adversaire, ou bien je ne sais pas quelle est ma place sur la planète. Alors j'allais les rassurer, encore que ma voix pèse rien. Enfin, ma voix, c'est un 7 milliardème d'humanité. Mais je dis, mais restez tranquille chez vous. Vous avez un beau pays, vous avez un grand pays, etc. Hein, vivez tranquille. Hein, allez jouer au golf en Floride. Allez visiter le parc du Yellowstone. Mais vivez une vie tranquille, mais n'essayez pas de dire à tout le monde, c'est moi qui commande. C'est tout ça. On ne vous demande que ça. On ne vous veut pas de mal. Hein. Il y a des gens très, très intelligents chez vous. La preuve, le monsieur, le professeur du MIT que j'ai cité, a été reçu par la presse, il avait déjà publié des vidéos très très intéressantes, M. Postol, je vous donne son nom, il ne lui est rien arrivé, c'est-à-dire qu'il y a des gens intelligents, respectueux de l'avenir de l'humanité, y compris dans les citoyens des États-Unis. Ce monsieur a eu un prix, d'ailleurs, un prix de la Fédération des scientifiques américains, qui est une grosse organisation qui regroupe l'élite scientifique des États-Unis, un prix parce qu'ils ont dit, en disant que les États-Unis n'étaient pas capables de se défendre contre des missiles, ce monsieur a mis le doigt sur une faiblesse et au fond, il a contribué d'une certaine façon à dire « il faudrait plutôt aller vers le désarmement que vers l'excès d'armement ». Monsieur Postol, Théodore Postol, je vous le dis, regardez sur Internet, vous retrouvez Théodore Postol, Théodore sans le E à la fin, et Postol, P-O-S-T-O-L. Très intéressant. Donc c'est ça aussi les États-Unis. Ce genre de scientifiques, ce citoyen lucide, courageux, qui viennent dire devant les caméras de télévision, mais vous savez, notre système de défense antimissile qui nous a coûté des dizaines de milliards, il ne fonctionne pas. Les États-Unis ne sont pas aujourd'hui capables d'arrêter un missile hostile. Heureusement, personne, aucun pays n'a envisagé d'envoyer des missiles hostiles sur le sol des États-Unis. C'était ça que je voulais souligner. Voilà, pour ce développement-là, on va passer une petite musique pour arriver à un autre sujet. Vous allez entendre, vous serez surpris, mais je vais vous faire une relation avec une situation française toute fraîche.
Pour faire une bonne dame patronesse, il faut avoir l'œil vigilant, car comme le prouvent les événements, 89 tue la noblesse, car comme le prouvent les événements, 89 tue la noblesse. Il y a un point à l'envers, il y a un point à l'endroit, un point pour Saint-Joseph, un point pour Saint-Thomas. Faire une bonne dame patronesse, il faut organiser ses largesses, car comme disait le duc d'Elbeuf, c'est avec du vieux qu'on fait du neuf, car comme disait le duc d'Elbeuf, c'est avec du vieux qu'on fait du neuf. Il y a un point à l'envers, il y a un point à l'endroit, un point pour Saint-Joseph, un point pour Saint-Thomas. Pour faire une bonne dame patronesse, il faut être bonne, mais sans faiblesse. Ainsi, j'ai dû rayer de ma liste une pauvresse qui fréquentait un socialiste. Ainsi, j'ai dû rayer de ma liste une pauvresse qui fréquentait... socialiste pour Saint-Thomas. Pour faire une bonne dame patronesse, mesdames, tricoter tout en couleur cacadois, ce qui permet le dimanche à la grand-messe de reconnaître ses pauvres à soi, ce qui permet le dimanche à la grand-messe de reconnaître ses pauvres à soi. Et un point à l'envers, et un point à l'endroit, un point pour Saint-Joseph, un point pour Saint-Thomas.
Là, vous avez tous reconnu Jacques Brel, qui, tout belge qu'il fût, avait une bonne compréhension de ce qui se passait en France. Hein. Vous voyez, 89 tue la noblesse. Hein. Un rappel de la glorieuse Révolution française. Mais je m'arrête sur cette chanson parce que je trouve qu'elle tombe parfaitement à point, puisque si vous avez entendu ce matin les informations, vous avez entendu que le président de la République française avait décidé de donner une allocation pour les jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas droit au RSA, en échange d'un certain nombre d'obligations qu'il devrait remplir. Et cette allocation, cet argent donc que va distribuer l'État, il va la distribuer à partir du mois de mars 2022. Mars 2022, alors vous avez compris, mars 2022, c'est juste un mois avant avril 2022. C'est-à-dire que M. Emmanuel Macron a distribué de l'argent, enfin annonce qu'il va distribuer de l'argent à la jeunesse, juste un mois avant que la jeunesse aille voter, si jamais elle a décidé d'aller voter. Et j'imagine que le jour où cette mesure entrera en vigueur, donc le 1er mars, les médias officiels feront tout ce qu'ils vont pour en plaire. C'est grâce au président Macron que vous allez toucher 4 sous, hein, que d'ailleurs que vos parents payeront avec les impôts, c'est pas Macron lui-même qui va sortir ça de sa poche. Bon, eh bien, M. Emmanuel Macron est une superbe dame patronesse. Il paye ses pauvres. Puisque les jeunes auxquels il s'adresse, c'est les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de travail. Donc il va payer ses pauvres avec un petit signe, un petit clin d'œil. N'oubliez pas de voter pour moi le mois prochain. Voilà, c'était ça, ce que je voulais souligner. Mais ces fonctionnements-là, alors, M. Macron, il les a appris là où il a été éduqué. Je rappelle qu'il a été éduqué dans un collège et un lycée de jésuites, donc où on pratique ce genre de charité. Hein. C'est, on achète ces pauvres avec de l'argent. Et incidemment, on leur dit, si vous pouvez voter, n'oubliez pas de voter. Alors, je ne sais pas si la jeunesse française sera suffisamment stupide pour suivre le conseil. Tant mieux, elle prendra quelques centaines d'euros. Ça lui permettra de passer peut-être un cap difficile, j'en sais rien. Mais le geste a un sens, il est même d'une grossièreté politique absolue, c'est-à-dire je vous méprise tellement que je vais acheter vos voix avec 500 ou 600 euros. Regardez comme vous êtes minables. Hein, je gouverne la France en distribuant 500 euros à la sortie de ma messe élyséenne. C'est triste, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors on verra si ça fonctionne jusqu'au mois d'avril, mais je ne voulais pas laisser passer cette occasion. Et pour le RSA, vous repasserez, puisque de toute façon, on ne veut pas que vous ayez droit. On, lui, ne veut pas que vous ayez droit. Voilà, ça c'était pour parler de la situation française, mais on en reparlera certainement. Alors la France n'a pas de missile hypersonique, mais elle s'en, pour l'instant, mais elle s'en préoccupe quand même parce qu'elle voudrait rester parmi les armées les plus technologiquement avancées du monde. Alors ça coûte un petit peu cher, mais enfin bon, les citoyens paieront à un moment ou à un autre, on verra bien. Je rappelle que le budget de la défense est un des budgets qui augmente le plus. Alors un mot sur Haïti, parce que quand on essaye de parler des plus pauvres de la planète, évidemment on parle des Haïtiens. Et j'ai eu quelques chiffres que je vais vous livrer comme ça. Ce qui se passe depuis quelques semaines maintenant, c'est que le chaos politique qui a suivi donc l'assassinat du président Moïse Jovenel a été suivi par une hyperactivité des bandes, appelons ça des bandes mafieuses qui contrôlent en fait la politique haïtienne, qui étaient déjà en service au moment où Jovenel Moïse était au pouvoir, mais probablement ils l'ont appuyé, mais pas tous, et puis ils ont peut-être été complices de sa liquidation, enfin les choses ne sont pas encore très très claires, mais ils continuent, comme ils ne savent pas comment faire pour obtenir l'argent, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup d'Haïtiens riches, et ils les connaissent, et donc en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils font des enlèvements alors de personnalités dont ils savent, parce qu'ils les connaissent nommément, c'est pas si grand Haïti, telle personne a beaucoup d'argent, donc on fait des enlèvements, et on ne rend le personnage qu'avec une rançon. Mais je vais vous donner l'ordre de grandeur des rançons, parce que les deux dernières rançons qui ont été annoncées et payées ont coûté une 750 000 dollars et l'autre 900 000 dollars. C'est-à-dire qu'il y a, ce que ça prouve, c'est d'une part qu'il y a des voyous, ça on le savait, ça prouve aussi qu'il y a des familles haïtiennes, de milliardaires haïtiens, qui sont capables de sortir cet argent-là de leur poche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un pays dans un état catastrophique, avec un écart de revenus considérable, où le pays, de fait, n'est pas gouverné, et où ce qui fait fonctionner un peu la machine, c'est ces rançons, oui, à l'échelle de presque un million de dollars chacune. Alors vous voyez, pour la bande qui a ça, c'est bien, et puis la bande, en fait, avec ça, d'une part, elle achète des armes, et d'autre part, elle se fait des amis. Parce que quand vous êtes un mafieux, un voyou, et que vous avez encaissé 900 000 dollars, que ça ne vous a pas coûté très cher finalement, bon, puisque la police haïtienne ne fonctionne pas, et donc vous pouvez distribuer autour de vous. C'est-à-dire vous pouvez corrompre la population haïtienne, au moins, sinon la corrompre, l'acheter, c'est-à-dire des gens qui meurent de faim, vous dites, ben, les voyous vous ont donné un peu d'argent pour vivre. Alors, c'est un classique, puisqu'on sait que les cartels de la drogue colombienne ont pratiqué ça abondamment aussi. Voilà, mais voilà comment fonctionne Haïti, et voilà la tristesse de la situation de ce pays-là. Je ne vais pas en rajouter, mais c'est très très désagréable de constater ces affaires-là. Et puis, puisque j'en étais quand même à vous parler de la future campagne présidentielle française, qui va nous concerner tous très directement, je voulais vous dire ce que va être le contenu de la campagne présidentielle française, en dehors des petits cadeaux de la dame patronesse en chef. Vous savez, et c'est tout à fait important, et je me demande même si c'est des règles qu'il ne faudrait pas remettre en cause, que pendant 6 mois, du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022, la France va occuper la présidence tournante de l'Union européenne. Or, à réfléchir sur cette concomitance, qui est le fait du hasard, puisqu'il y a un tour de rôle et tout, à réfléchir sur cette concomitance, on ne se demande pas s'il n'y a pas là une espèce d'erreur stratégique de l'Union européenne, c'est-à-dire confier le pouvoir d'orientation de l'Europe. Je ne dis pas qu'en 6 mois, on change les orientations de l'Europe, mais en fait, ça a une incidence, surtout si on est très, très excité et très avide de profiter de cette opportunité, donnait donc la présidence de l'Union européenne, donc 470 millions d'habitants, à un monsieur qui ne sera peut-être même pas réélu, et pour une durée en pleine campagne électorale dans un des plus importants pays de l'Union européenne, c'est peut-être une chose qu'il faudrait éviter. C'est-à-dire dire que le tour de la France, qui était prévu pour le premier semestre 2022 de longue date, serait repoussé d'un cran. On passerait au deuxième trimestre 2020, semestre 2022, ce ne serait pas la mer à boire. Et au fond, là, on aurait un président nouvellement élu, quel qu'il fût, et pas un monsieur. Mais là, on va avoir donc un monsieur qui mène une campagne et qui va donc lancer l'Europe sur des chemins qu'il aura en partie choisis lui-même, qui ne feront pas nécessairement l'objet d'un accord de tous les 26 autres, et qui va engager l'Europe alors dans des chemins que je vais vous indiquer, et qui sont des chemins inquiétants. Alors c'est déjà le cas. Mais voilà ce qui va être le menu européen de l'Élysée à partir du 1er janvier. Mais tout est déjà prêt. Il s'agit de contribuer et de s'organiser pour l'Union européenne par la maîtrise des espaces communs. Alors qu'est-ce que c'est que ces espaces communs ? D'où ça sort ce langage ? Alors je vous explique. Vous savez donc que sur la planète, il y a des États constitués avec des frontières, avec des eaux territoriales devant, quand eaux territoriales il y a, pour les pays qui ont des eaux territoriales. Et puis, il y a des endroits de la planète, le milieu des océans, la zone des pôles, le pôle du Nord en particulier, l'hyperatmosphère, c'est-à-dire au-dessus de l'atmosphère, le cyberespace. Le cyberespace, donc, qui est la circulation de toutes ces ondes qui circulent dans un endroit où personne n'a de droit de propriété et de droit de contrôle. Et puis, les hautes mers, les profondeurs des mers, où effectivement, là, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et donc, un des soucis de l'Union européenne, qui a été acté dans des documents préparatoires, c'est de donner une voix plus forte à l'Union européenne dans le contrôle futur des espaces. Alors qu'ils appellent commun, c'est très joli, mais en fait, des espaces que les impérialistes veulent contrôler. Puisque les États-Unis sont très en avance là-dessus. Alors je vous fais la liste quand même de ces espaces-là. Je vous ai parlé du pôle Nord en particulier. Le pôle Sud, c'est un peu moins sensible, mais ça l'est. Je vous ai parlé du cyberespace. Donc toute cette circulation d'ondes de différentes longueurs qui vont et qui se promènent donc, d'un émetteur à un récepteur. La haute atmosphère où on peut envoyer des satellites, par où on peut faire passer des missiles hypersoniques, je l'ai dit. Et puis les hautes mers, puisqu'au fond, les eaux territoriales s'arrêtent à 12 000 marins des côtes et qu'au-delà, la mer est à tout le monde. Alors la mer est à tout le monde et en même temps, je m'arrête un petit peu là-dessus, la mer est à tout le monde et en même temps, il y a des appétits de plus en plus nombreux pour cette mer qui est à tout le monde. Alors les appétits viennent de gens qui ont déjà beaucoup d'appétits et qui ont souvent les yeux plus gros que le ventre, je pense aux États-Unis en particulier. Et l'Union européenne ne veut pas être en reste, c'est-à-dire elle dit qu'il faudrait que sur la haute mer, on y aille, on soit plus clair. Pour la haute mer, c'est un enjeu très très important. La haute mer, c'est un endroit où il y a probablement des ressources minières. Il faut le savoir, dans les profondeurs abyssales, hein, au-delà de 1000 ou 2000 mètres de profondeur sous la surface, il y a des richesses minières, sous forme de ce qu'on appelle des nodules métalliques, des petites boules de métaux. Il y a des sources d'eau thermales, chaudes, chargées en certains sels minéraux, très très intéressantes aussi. Il y a des possibilités d'extraire du pétrole, du gaz, etc. Et donc, il y a un véritable enjeu sur la conquête ou le contrôle des hautes mers, alors le milieu de tous les océans, Pacifique, Atlantique, Indien, y compris la haute mer en Méditerranée, puis il y en a, pour savoir qui va pouvoir utiliser ça. Pour l'instant, le jeu, en particulier des États-Unis, consiste à dire, nous, on essaye d'avancer dans notre gestion, on dit là, c'est chez nous, là, on contrôle, et on ne veut surtout pas, ou éviter que ça se fasse, qu'il y ait des règles qui s'installent, des règles internationales, donc un droit qui dise, dans la haute mer, on pourrait imaginer, par exemple, je vous dis ce qui est possible, mais qu'il y ait une autorité internationale de la haute mer, avec une convention qui soit parrainée et chapeautée par l'ONU et qui dise, dans la haute mer, on peut effectivement, il est possible de faire des extractions de pétrole ou des extractions de gaz ou de capter des sources sous-marines en respectant un certain nombre de règles environnementales, par exemple, et puis que tout le monde, qu'il n'y en ait pas un qui prenne tout et que les autres n'aient rien, etc. Bon. Ça, évidemment, les États-Unis ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent surtout pas, comme dans tous les domaines, ils ne veulent surtout pas être liés par un accord quelconque. Et donc ça va être ça, ça va être ça le calendrier de Macron. Et donc je le redis parce que on y est, enfin on est en novembre, la campagne électorale est déjà commencée, ça on l'a compris, mais en fait le passage donc de la présidence française de l'Union européenne va lui donner un essor et puis une volonté de dire qu'il est le patron, le maître de l'Europe, même si les 26, certains d'entre eux ont des réticences par rapport à sa façon de pratiquer. Et donc il va avancer sur ces dossiers-là en disant c'est très très important que l'Europe contrôle le cyberespace, contrôle les fonds sous-marins, contrôle les pôles, etc. Et au fond, il va mystifier, je l'annonce pour les électeurs français, il va mystifier les électeurs français. Les électeurs français, ils ont à élire un nouveau président de la République. Ils n'ont pas à élire un président de l'Europe. D'ailleurs, on ne leur a jamais demandé de le faire. Ils n'en ont pas le droit. Bon. Et donc, il va mystifier en traçant un portrait de l'Europe future grandiose, faisant jeu égal avec les États-Unis, la Chine, etc. Et dans le fond, faisant croire qu'il est à la tête d'un projet grandiose, alors qu'il n'est même pas sûr d'être à la tête d'un projet un peu moins grandiose, qui soit un projet français. Et donc ce projet un peu moins grandiose français, il l'a quand même. Alors je vous décortique la campagne. Alors il y a d'une part la campagne européenne, donc c'est très très grands enjeux, des espaces communs, c'est-à-dire sur lesquels l'Europe veut avoir son mot à dire et peser. Et puis il y a les objectifs pour la France qui sont en 2030. Mais que je sache, alors vous savez que M. Macron a listé toute une série d'objectifs grandioses pour 2030 en matière de recherche technologique, recherche scientifique et tout, avec quelques milliards à la clé, pas beaucoup d'ailleurs, pour faire avancer sur ces sujets-là, mais c'est 2030. Ça veut dire qu'il se comporte, lui qui n'est que candidat à la présidence de la République, encore que non déclaré, bon enfin l'illusion n'est pas bien grande là-dessus, il se comporte comme si, attendez, de 2022, un mandat de 5 ans, ça 2027, enfin ça, il ne veut pas le savoir. C'est-à-dire que l'élection n'existe pas pour lui. C'est une formalité qui sera remplie, on n'en parle plus. Lui, il a l'œil sur 2030, il a l'œil sur les espaces communs de l'Union européenne, etc. Et donc, à la limite, la France est trop petite pour lui. C'est ça qu'il va nous dire. Alors, ça amène quand même les lecteurs conscients à se dire « Mais avant, la France est trop petite pour lui, mais c'est quand même lui qui prend les décisions. C'est quand même lui qui fait voter des budgets. C'est quand même lui qui essaye de détruire le système de retraite. Ça, c'est pas l'Union européenne, c'est pas l'Arctique, c'est pas les hautes mers. Ça, c'est Emmanuel Macron. » C'est alors, je ne fais pas campagne pour quiconque, mais le jour où vous voterez Emmanuel Macron, si ça vous l'envie, vous en demande, vous voterez pour un monsieur qui aura été 5 ans au pouvoir et qui aura un bilan pas brillant du tout, du tout. Ça sera déjà ça, une façon de le juger. Après, on verra bien s'il y a des concurrents. Le moment n'est pas encore venu. Mais ça, ça reste vrai. C'est-à-dire qu'on va vous raconter des histoires sur l'Europe de 2030, la France de 2030, l'Europe ceci, l'Europe cela, et on va oublier de vous dire que ce monsieur qui demande un nouveau mandat de 5 ans doit d'abord être jugé sur ce qu'il a fait pendant ses 5 premières années. C'est comme ça qu'on se représente. Eh bien, j'ai fait ça, la population est contente, les électeurs reviennent, ou la population n'est pas contente. C'est ça une campagne électorale. Autrement, c'est de la poudre aux yeux. Mais de la poudre aux yeux, il y a des fabricants de poudre aux yeux. Dans les cercles du pouvoir, on en reparlera aussi. Un dernier mot. Alors, qu'est-ce que je voulais aborder pour en terminer? Attends, il me reste combien de minutes? Ah, ça, c'est grandiose. Grandiose, grandiose. Bon, alors, quelques mots. Oui, je ne vais pas parler du sommet de Glasgow. Enfin, si, je vais en dire quelques mots, ben, c'est trop rigolo. C'est trop rigolo parce que vous savez qu'avant le sommet de Glasgow, donc la COP 26, je crois, de son nom, a été précédée par un G20 qui s'est tenu à Rome, et qui a donné lieu à des prises de position assez étonnantes, parce que ce G20, d'abord, ben, il se voit de temps en temps, et là, on a retrouvé beaucoup de gens, les G20, donc les 20, c'est les 20 premières puissances économiques du monde, et ils ont un peu parlé, comme c'était quelques jours avant le sommet de Glasgow de la COP26, ils ont un peu parlé du climat. Et ce qui est intéressant, c'est que... C'est que le communiqué final du G20 qui a dit... Alors, écoutez, c'est plus vrai que nature. C'est même pas... C'est Draghi lui-même, donc le président du Conseil italien, donc qui était l'hôte du G20, qui a dit... Alors, tenez... Mais écoutez bien et roulez-vous par terre après si vous avez envie. Nous avons réussi à maintenir en vie nos propres rêves. Alors, il n'a pas parlé d'objectifs climatiques. Nous avons réussi à maintenir en vie nos propres rêves. C'est-à-dire, tout ce qu'on vous vend, c'est des rêves. Hein, et on ne fait rien. D'ailleurs, on est incapable de le faire. Et il faut ajouter, parce que c'est tout à fait clair, qu'en fait, et ça sera un des bilans qu'il faudra tirer objectivement de la COP26. Et alors, il y a comment des gens qui commencent à le dire, même Artus Bertrand commence à le dire, en disant, de toute façon, ces gens qui font leur cinéma, ils ont fait leur cinéma à Rome, vous savez, ils sont allés devant la fontaine de Trévise, ont jeté des pièces qui portent... Enfin, des gamins en vacances. Hein. Bon, ces gens-là n'ont pas le pouvoir. En fait, ils ont un pouvoir politique, mais qui sont tenus par les grandes entreprises. Et c'est les grandes entreprises qui font la décision. Et donc, si les grandes entreprises décident ou non, ne sont pas intéressées, quitte à le faire croire, à diminuer leurs émissions de CO2, de méthane, etc., ils peuvent faire toutes les comédies qu'ils veulent, et ils ne sont pas suivis. Donc je retiens la phrase de Mario Draghi, qui est exemplaire. Nous avons réussi à maintenir vivants nos propres rêves. C'est-à-dire qu'il a avoué que les gouvernements des 20 premiers pays du monde sont là uniquement pour vendre du rêve à leurs électeurs. Mais quant aux choses sérieuses, elles se passent dans d'autres endroits, dans les conseils d'administration de quelques grands monopoles ou quasi-monopoles des grands produits industriels. C'était ça que je voulais noter. Donc tant qu'on en restera à ce niveau-là, effectivement, il ne faudra pas avoir d'illusions sur les G20 et les grandes annonces. Les experts qui disent que le chiffre avancé de 1,5 degré d'augmentation de la température moyenne est d'ores et déjà dépassé pour la perspective 2030 ne se trompent probablement pas. Et de toute façon, tant qu'il n'y a pas maîtrise du pouvoir économique par le pouvoir politique, il n'y a pas de possibilité que ça avance. Donc laissons M. Mario Draghi avouer, pris la main dans le sac, nous avons réussi à maintenir nos rêves. C'est-à-dire, on vous annonce des tas de choses mirifiques, mais nous-mêmes savons que nous n'en sommes pas capables. Dernière chose, on en reparlera parce que c'est très intéressant. La crise européenne s'approfondit, puisque vous avez vu que la Pologne est rentrée dans un affrontement avec l'Union européenne, puisque le gouvernement polonais en est arrivé à faire dire que, par la Cour constitutionnelle polonaise, que le droit polonais était supérieur au droit européen. Alors c'est très intéressant comme position parce que au fond, ça amène à se poser la question de la validité du droit et du fait que le droit européen peut s'imposer à tous les pays. Alors d'où ça vient ? Alors ça vient pas du tout d'un accord des citoyens européens qui aurait par référendum, tous les pays, d'ailleurs pas que la France ou pas que quelques-uns, dit qu'ils sont d'accord pour que le droit de l'Europe soit supérieur au droit de leur pays. Ça vient des traités de Lisbonne qui ont été signés que par les États sans consultation populaire. Et donc au fond, la crise polonaise à partir de la question des rapports du droit national avec le droit européen est une crise d'importance puisqu'elle montre la difficulté à dire qui est légitime en Europe dès l'instant où il n'y a pas référendum et surtout pas référendum généralisé. Je rappelle qu'en plus dans la constitution d'un certain nombre de pays européens, le référendum n'existe pas. Donc on a un vrai problème fondamental sur l'Union européenne, comment les citoyens peuvent peser sur l'avenir de cette Union. C'est un sujet que nous réaborderons certainement à d'autres occasions. Mais en attendant, je vous donne rendez-vous mardi prochain et surtout mercredi prochain pour la rediffusion d'une émission qui était une interview passionnante de Michel Etiévant, le biographe de Ambroise Croizat, ministre communiste fondateur de la Sécurité sociale en France. Et donc Ambroise Croizat est mort, on le sait, très très tôt. Michel Etiévant est mort au mois d'octobre et on rendra hommage à Michel Etiévant, à ce biographe, et on rendra hommage indirectement à Ambroise Croizat à cette occasion. Merci de votre attention. Merci Sidi et place à la musique.